Alors là, on va parler des souhaits des hommes avec qui ?
Avec Pascal Fourier.
Voilà. Alors moi, je lui ai posé la question à Pascal Fourier avant de la laisser interroger par une autre émission.
Version originale, présentée par votre serviteur Patrick Léon.
Patrick Léon-Émile, bien sûr, absolument. Mais elle a le trac, vous avez vu ?
Elle a le trac, mais on va tout faire pour qu'elle se détende. Est-ce qu'on va y arriver ?
C'est une bonne question.
Alors, fait combien de temps que vous êtes sur la ligne ?
Ça sera ma 7e saison si je continue l'année prochaine.
Voilà, vous voyez, 7 ans et le track ne s'en va pas. Mais c'est génial le track. Allez !
Donc il faut rappeler que Des Sous et des Hommes, c'est de 9h30 à 10h le mardi. Mm-hmm. Alors quand tu as voulu faire une émission sur l'économie, est-ce que tu t'es dit, voilà de quelle manière j'aimerais qu'on parle de l'économie ? Est-ce que tu t'es dit, voilà ce qui manque dans la façon de parler de l'économie ? Voilà comment je propose d'en parler. Est-ce que c'est un peu ça le constat ?
Ah bah c'était ça, oui, parce que j'ai la fâcheuse tendance, outre de bafouiller, comme tout le monde pourrait le remarquer, d'écouter France Inter le matin. Et donc j'ai la joie et la bonne humeur d'entendre Jean-Marc Sylvestre. Et puis, il y a 7 ans, était apparu sur de grands panneaux des faucilles et des marteaux dorés, et qui étaient des invitations à placer son argent en bourse. À l'époque, j'ai trouvé ça un peu étrange. Je me suis dit que c'était le moment où on nous disait vraiment qu'il fallait placer son argent en bourse, que c'était extraordinaire, qu'on allait faire fortune. Et je trouvais tout cela quand même franchement étrange et très en décalage avec ce que j'avais pu entendre quand moi j'étais petite dans les discours politiques.
Mais j'avais raison, hein.
Qu'il fallait placer son argent en bourse, hein, ce qui nous fait, au lieu que les jeux problèmes.
Travailler plus pour gagner plus, et surtout spéculer plus pour gagner plus.
Oui, c'est plutôt
et travailler
ça.
Plus pour permettre à ceux qui spéculent de s'enrichir. À ceux qui s'enrichissent en dormant, disait quelqu'un qui est François Mitterrand.
Et du coup, je me suis dit, moi je ne fais pas du tout d'économie dans la vie civile. Je m'occupe notamment de latin et de grec, donc ce n'est pas complètement le même sujet. Et je me suis dit, si je n'y comprends rien, je peux peut-être essayer de faire comprendre aux gens en posant des petites questions candides, quitte à bafouiller en posant les questions. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors oui, évidemment, je n'ai pas essayé d'interviewer les mêmes gens que Jean-Marc Sylvestre, c'est clair.
C'est-à-dire il y a plus un positionnement plutôt de l'autre côté par rapport à la personne que tu viens de citer.
Oui, un positionnement, on pourrait dire antilibéral, mais qui dit antilibéral dit pas forcément extrême gauchiste, dit éventuellement quelqu'un de gauche. On peut être keynésien, c'est peut-être assez modéré. Il y a des keynésiens qui viennent chez moi, il y a des marxistes qui viennent chez moi, il y a des gens qui sont altermondialistes d'une façon générale. Mais je revendique le fait que cette émission n'est pas une émission, par exemple, extrême gauchiste. Mmh. Ça, c'est clair pour moi.
Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont beaucoup plus difficiles à aborder que d'autres en économie ? Est-ce que, par exemple, il y a des thèmes que tu voulais aborder et que tu as du mal parce que c'est très technique, parce que tu ne trouves pas les bons interlocuteurs ?
C'est pas que je trouve pas les bons interlocuteurs, c'est que je suis un peu mal comprenante sur un sujet, c'est le sujet de la monnaie.
La monnaie ?
Oui, la création, comment se crée la monnaie, ça, décidément, je reste un peu obtuse.
Donc le but, c'est ça, de trouver quelqu'un qui puisse en parler de façon très simple.
Je crois que le sujet est vraiment difficile.
Mmh. Mmh. C'est le fameux sujet de la planche à billets.
Oui, qui ne fonctionne justement plus comme ça, parce que si c'était ça, ça serait simple. Mmh. Mais j'ai cru comprendre que c'était bien plus compliqué. Et donc, il y a une difficulté pour moi sur ce sujet-là.
Alors, tu disais que dans la vie, tu es donc enseignante, que tu es dans une matière qui n'a rien à voir avec l'économie. En tout cas, le point commun entre les deux activités, c'est qu'il y a quand même un souci pédagogique très fort.
Oui, c'est vrai.
En restant très simple, de façon à faire comprendre par des termes très simples, par des mécanismes simplifiés, je dirais, l'économie. C'est ça le souci.
Le plus possible. Alors, il est vrai que au tout début de mes prestations, je faisais préciser chaque mot du type « qu'est-ce que c'est la croissance ?»« C'est quoi le PIB ?» etc., etc. Et puis, je peux des fois quand même difficilement cacher que j'ai fini quand même par comprendre quelques petites choses. Donc, je pense plus forcément à poser ce type de questions. Donc, ça peut peut-être devenir un petit peu plus compliqué. Mais pour ceux qui seraient vraiment des néophytes totaux, ils peuvent reprendre 177 émissions, je crois, de 20 minutes chacune sur le site www.dessousetdeshommes.org. Avec les transcriptions en plus.
Voilà, et puis si un éditeur est intéressé, parce qu'il y a eu une transcription de ces émissions, de ces entretiens, ça pourrait faire l'objet d'un beau livre. Mais alors, il faut trouver les éditeurs, et c'est pas facile.
Oui, parce que là, il y a même carrément un livre qui était tout prêt, qui pouvait être le premier d'une série. Et là, par exemple, je pourrais en faire encore un nouvel épisode sur tout ce qui tourne autour du protectionnisme, qui me semble un des thèmes les plus essentiels actuellement dans au point de vue économique et politique. Et je pense avoir les meilleurs intervenants. Il m'en manque encore un, mais je pourrais le décider s'il y avait ça qui se mettait en place. L'embêtant, c'est trouver un éditeur qui veut faire quelque chose qui est à la fois pédagogique, et c'était ça la difficulté, puisque j'avais eu effectivement une réponse qui me disait « Oui, mais ces personnes se sont déjà exprimées en écrivant des livres. » Je suis bien d'accord, mais pas forcément très accessible. Et effectivement, moi, je pense rendre les choses plus ou moins accessibles.
Et tu as des retours de tes auditeurs concernant... C'est vrai que on parle des économies sur d'autres radios, mais sans doute il y a des sujets plus spécifiques qu'on n'aborde pas et que tu arrives toi à traiter. Est-ce que tu as des retours de tes auditeurs qui t'apportent une satisfaction en disant c'est vrai que le sujet a eu sa raison d'être en quelque sorte?
Oui, mais par le site, j'ai pas mal d'auditeurs qui m'écrivent, et je sais aussi que mes émissions circulent par des CD que moi je peux envoyer et qui ensuite peuvent être copiés. Tout est libre de droit, tout est pompable sur le site. D'ailleurs, grâce aussi à Aligre, hein, puisque Aligre ne m'a jamais mis le moindre bâton dans les roues, ni dans les sujets que je traitais, ni sur la thématique, ni sur le fait d'être libre de droit. Vraiment, c'est la liberté absolue, et j'en sais gré.
Pourquoi le ferions-nous? Non, et moi, je dois, Patrick Léon-Émile, je vais faire une petite incise. On doit reconnaissance à Pascal d'avoir fédéré énormément d'auditeurs. C'est-à-dire que, mettons, les soirées électorales à la radio, là où on en a vécu quelques-unes, on va en vivre encore, et elle invite ses auditeurs. Et je peux vous dire que les studios d'Alix sont pleins. Parce qu'il y a vraiment un réseau autour de cette émission, et je crois que elle a une reconnaissance de ses auditeurs, parce qu'aussi ils reconnaissent à travers ces problématiques. En fait, ils se reconnaissent à travers ces problématiques, et elle leur apporte aussi de manière qui n'est pas, c'est pas du tout un discours militant que vos émissions, et c'est ça qu'il faut bien préciser. C'est-à-dire, ça permet d'avoir comme ça une appréhension du politique, une connaissance. Et après, c'est un peu le principe d'Alix, c'est-à-dire de dire, nous devons faire en sorte que les auditeurs se posent des questions et interrogent dans un monde où on consomme. Et c'est ça.
En tous les cas, pas plus militant que Jean-Marc Silvestre tous les matins.
Mais arrêtez de dire des obscénités.
Et c'était un peu ça aussi l'idée. Il y a un discours unilatéral. Et si je m'en tiens encore une fois à France Inter, une fois par semaine, on daigne inviter un économiste qui n'est pas, Bernard Maris, qui n'est pas libéral. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc, à un moment, je m'étais dit, mais on va me reprocher d'inviter que effectivement des gens qui ne sont pas des libéraux. Visiblement, sur les autres radios, ça pose aucun problème d'inviter systématiquement des gens qui soutiennent le discours libéral. Alors je me suis dit, c'est pas bien grave, effectivement, dans le type que tu dis, Philippe, c'est-à-dire, je vais proposer une autre façon de voir les choses, puis ensuite, on peut réfléchir réellement, mais avec les deux termes du débat et pas un seul.
Mais cela dit, tu peux très bien tomber sur un économiste libéral qui a des choses intéressantes à dire et qui présente un peu les choses, même s'il est libéral, sous un jour un peu intéressant.
Libéral, je ne sais pas. En revanche, j'ai effectivement invité des gens qui étaient des gens de droite, plusieurs.
Ah oui, d'accord. Donc, il y a une nuance. Tu fais la nuance entre être de droite et être libéral.
Oui, tout à fait. Ouais. Y compris la plume de Raffarin. Il y a quelques années, enfin, ça a été parmi mes premiers invités, Henri Guénaud, si j'ai bon souvenir de son prénom, est venu ici se faire interviewer. Hakim El-Karoui, qui a été la plume de Raffarin, est venu se faire interviewer ici.
Henri Guénaud n'est pas avec la plume de Raffarin. Il fait partie maintenant de conseil spécial. L'état-major de j'allais dire Chirac, Sarkozy. Mais c'est vrai, faut que je m'y fasse.
Il a dû se tromper quand même de secteur, je le crains.
Mais cela dit aussi, dans toutes ces interviews, ces sujets économiques, c'est quand même des rencontres intéressantes. Tu as cité donc des noms de personnes que tu as croisées, mais notamment José Bové, Serge Halimi, Frédéric Lordon, Francis Wurtz, Anne-Cécile Robert. Est-ce qu'il y a parmi ces personnes ou d'autres des personnalités qui t'ont marqué plus que d'autres, vraiment des vraies rencontres humaines quand même qui se font?
Ouais. Mon émission Pépite, c'est Maurice Kriegel-Verlerimont.
Rappelle-nous qui c'est.
Grand résistant. Il était signataire de l'appel pour la célébration du 60e anniversaire du programme national de la résistance, qu'a oublié de citer Nicolas Sarkozy sur le plateau d'Aiglières. Et c'était un monsieur qui avait 91 ans quand je l'ai interviewé. Il est mort l'été dernier, en juillet. Et pour moi, c'est la plus belle rencontre que j'ai faite. Un type de 91 ans qui était capable de porter comme ça les jeunes, entre guillemets, parce que je suis peut-être plus vraiment, mais ou en tous les cas l'ensemble de tous les jeunes vers l'espoir social, c'était une rencontre absolument fabuleuse, quoi, vraiment. Et actuellement, par exemple, un des types intellectuellement qui me semble le plus intéressant à suivre, c'est Jacques Sapir, par exemple, qui est chercheur à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, par exemple. Mais ma pépite, c'est Krigel Valrimont et aussi peut-être bizarrement Philippe de Chartres, qui est un gaulliste et qui a tenu des propos d'une bonté, je crois, et d'une simplicité. Même dans sa façon de me recevoir, il me recevait dans une haute institution de la République, dont je me souviens plus le nom, près du Trocadéro. Sa façon humaine, gentille de m'accueillir.
Conseil économique et social.
Oui, c'est ça, un conseil économique et social. Merci Philippe. C'était aussi quelque chose d'assez fabuleux. Ouais.
Mais alors, il y a Patrick. Moi, ça me frappe. Je ne sais pas vous, toi, oui, parce qu'on se dit, on se tutoie ce soir,
on
se
tutoie. Non, oui.
Et j'arrive pas à le faire, moi. C'est quand même terrible. Non, mais tu, moi, il y a Pascal. Bon, renie sa jeunesse alors qu'elle est quand même très jeune. Elle est fascinée par la résistance.
Oui, ça c'est le terme
moi, ça me
est sorti en plusieurs fois là. Oui, c'est vrai.
Oui, parce que par exemple, effectivement,
étonnant.
L'appel la commémoration du 60e anniversaire du programme national de la résistance a été signé par Lucie et Raymond Aubrac, par Ezel, par des gens absolument fabuleux qui tenaient à défendre les acquis qu'avait apporté. Le fruit justement de la résistance, parce que ce programme a été fait vraiment au fin fond de l'histoire la plus sombre, hein, parce qu'elle a été commencée, ce programme a été mis en place va commencer à être réfléchi en tous les cas en 43 sous l'égide de Jean Moulin, et dès l'abord la résistance c'était d'une part chasser les Allemands et proposer un modèle social qui apportait du mieux-être, et actuellement on en est loin de se dire on va aller vers du mieux-être. Chacun d'entre nous, on entend ça dans tous les médias, pense que la génération qui va nous suivre va avoir des conditions pires. Et c'est ce que disait, et c'est pour ça que je suis infiniment gré à Krigel Valrimont d'avoir dit ce qu'il a dit dans l'émission 103 sur mon site. Il disait, mais comment c'est possible qu'actuellement, alors que quand on sortait de la guerre, il n'y avait plus rien et plus d'argent dans les caisses, on a réussi à mettre en place ça, la sécurité sociale, etc. Maintenant, on veut détruire ça ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et actuellement, on est quand même effectivement la quatrième puissance mondiale, la 5 ou la 6, on va pas chipoter. Et on continue à essayer de nous dire quand même qu'il faut mettre à bas tout ce qui assurait le bien-être des simples travailleurs, puisque c'est ça quand même qui est derrière. La sécurité sociale, c'est ça. Et quand j'apprends que Nicolas Sarkozy, des fois il arrive quand même à me mettre en colère, risque de mettre en place une franchise au niveau de la sécurité sociale, on a entendu parfois parler de 100 euros, mais il ne se rend pas compte de ce que c'est 100 euros pour des pauvres. Et c'est absolument insupportable. Alors, résistance, je le répète, par exemple, moi je ne suis pas extrême gauchiste et je ne veux pas monter systématiquement au créneau pour tout et n'importe, enfin, tout et n'importe quoi, en tout cas pas sur tous les sujets. Mais il faut absolument que le débat politique se ressentent sur un certain nombre de notions, et je pense qu'on peut difficilement il n'est pas possible de faire l'impasse. Il y a un très bon texte qui a écrit un monsieur dont je vais avoir oublié le nom, c'est quand même Ballot, qui a écrit un très bon livre avec Anne-Cécile Robert, mais en tous les cas sur le protectionnisme, c'est-à-dire que si on veut lutter c'est André Bellon. André Bellon avait écrit un livre qui s'appelait « Pourquoi je ne suis pas altermondialiste ». Je pense que le vrai questionnement politique, il est là. Et par exemple, mon émission qui au départ était simplement économique, elle est de moins en moins économique, elle est de plus en plus politique, et de plus en plus sociologique.
De toute façon, la frontière est quand même fine entre les deux.
Oui, mais au départ, j'ai essayé d'être un peu très claire dans ce que je faisais, donc économie, mais c'est pas possible effectivement de ne pas aller au-delà. Et si on ne se pose pas ce questionnement sur le protectionnisme, je ne vois pas comment on peut lutter contre le libéralisme ou la mondialisation. Et en particulier, quand on dit actuellement que la gauche et la droite, c'est la même chose, qu'il faut revisiter les frontières, patati patata. Non, il y a une frontière qui devrait être claire entre une droite ou des gens qui sont OK avec le libéralisme, avec la mondialisation, qui ne peut être autre chose que libérale. Et c'est bien ça le problème. Mondialisation, c'est mignon, on a l'impression qu'on va être tous frères, mais c'est pas ça. C'est une mondialisation qui cherche à mettre à bas les frontières pour faciliter, entre guillemets, les échanges économiques. Mais si ça doit faire en sorte que, effectivement, on va préférer faire des productions dans les pays dans lesquels il n'y a pas de protection sociale. Et c'est là aussi qu'il y a le lien avec Rigel-Valrimont. Nous sommes un pays dans lequel nous avons choisi, pas seulement le nôtre, mais un modèle social dans lequel nous avons des valeurs et nous avons mis en place un certain nombre de choses pour protéger ces valeurs. Notamment des valeurs de solidarité. Actuellement, la seule chose qu'on nous propose, c'est de mettre à bas tout ça sous prétexte qu'il faudrait être compétitif. Et effectivement, actuellement, le parti de Sarko, d'une part, et d'autre part, y compris le Parti socialiste dans sa branche qui n'est pas clairement à gauche, parle d'adaptation à la mondialisation et d'adaptation à la compétitivité. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on parle compétitivité, il faut avoir les oreilles dressées. Parce que ça veut dire qu'on va mettre à bas les protections sociales, ça ne peut pas être autrement. Et d'ailleurs, le vote pour Nicolas Sarkozy est parfaitement cohérent. Si effectivement on pense qu'il faut que la mondialisation est une bonne chose, d'une part, et d'autre part qu'il faut essayer d'être compétitif, oui, il fallait voter Sarkozy.
Mais alors, justement, ce vote, il émane de gens qui sont généralement des classes populaires, qui seront les principalement touchés par ce type de mesures. Et là, c'est l'importance des émissions comme la vôtre, c'est-à-dire d'arriver à expliquer aux gens vraiment pourquoi ils votent et sur quelles sont véritablement les politiques qui sont en jeu et non pas de voter pour la gueule, la pipolisation de la politique qu'on est en train de voir.
Mais c'est la limite, on pourrait dire, d'émissions faites sur des radios associatives, si je puis me permettre. Parce que c'est vrai que je grouillotte dans les milieux altermondialistes et souvent on me dit que finalement la solution pour faire passer nos messages, etc., etc., serait effectivement des radios alternatives, des médias alternatifs divers et variés, que ça soit papier, télévision, comme Zaléa par exemple. Je crois que non. Je crois que le fond de l'affaire est bien là, c'est-à-dire qu'il y a un discours unilatéral ou quasi unilatéral sur l'ensemble des médias classiques.
Des grands médias,
et que ce sont ces grands médias-là qui touchent le grand public, oui. Et les travailleurs, si je dois prendre une terminologie qui fait un peu coco sur les bords. Et c'est un réel problème, c'est-à-dire comment faire en sorte pour qu'un discours alternatif puisse passer. Et c'est pas simplement un discours alternatif, c'est-à-dire comment une vraie forme de démocratie est-elle possible? Parce que si on ne réfléchit pas sur un certain nombre de thématiques, il n'y a plus de démocratie. Et pour moi, je pense qu'actuellement, la démocratie est gravement en danger.
La connaissance et la culture font partie de la démocratie et sont une pierre angulaire de tout système démocratique. Alors moi, on me fait des signes désespérés derrière la vitre. On me fait un signe de censure, le ciseau, vous savez, Anastasie, comme ça.
Ouais, c'est ça. Donc Sarko nous le fasse définitivement.
Voilà. Mais nous, la seule censure qu'il y a sur Alix, c'est la censure du temps. Alors, pour vous retrouver, c'est tous les
mardis de 9h30 à 10h. Et autrement, sur un site, si on est définitivement au travail à cette heure-là, c'est www.dessous-et-des-hommes avec un tiret entre chaque mot.org.